bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Revenir à 60 ans pour une retraite à taux plein, à condition d'avoir cotisé pendant 40 années. Repousser l'âge légal à 65 ans en augmentant la durée de cotisation. Engager une réforme systémique en introduisant la retraite par points. Aller sur le terrain de la capitalisation. Ou ne rien modifier et laisser les dernières réformes produire leur effet. On trouve de tout en la matière dans les programmes des candidats à l'élection présidentielle, sans que cette thématique d'ailleurs engendre de véritables débats de fond. À cela, au moins deux explications. La campagne telle qu'elle se déroule jusqu'à présent s'est davantage focalisée sur les personnes que sur les programmes. Par ailleurs, l'objectif d'une réforme du système de retraite apparaît moins urgent désormais, puisque les comptes sont au vert. Le régime vieillesse de la sécurité sociale était excédentaire en 2016 et devrait l'être encore davantage cette année. Alors justement, libéré de cette contrainte financière, le moment n'est-il pas idéal pour réfléchir autrement à l'avenir des différents régimes et pourquoi pas en allant jusqu'à poser la question suivante, faut-il supprimer l'âge légal de départ à la retraite ? Question que nous allons poser ce soir à deux invités et ce, je vous le rappelle, dans le cadre de notre semaine spéciale juste avant le premier tour de l'élection présidentielle, semaine consacrée à un certain nombre de débats de société qui, sans être totalement neufs, ont une actualité dans le programme des candidats. On a parlé du service militaire lundi, hier c'était la question de la fin de vie et ce soir la question des régimes de retraite. Et pour en discuter, Florence Legros, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, directrice générale d'ICN Business School, qui est une école de commerce, spécialiste des questions relatives au système de retraite, tout comme notre deuxième invité, Henri Sterlignac. Bonsoir.
Bonsoir.
Économiste également, membre du collectif des économistes atterrés, conseiller scientifique à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Alors, je le disais au début, c'est un sujet qui n'est pas omniprésent, on va dire, dans le débat de cette campagne présidentielle. Comme beaucoup d'autres thèmes d'ailleurs de fond. Est-ce que c'est aussi, d'après vous, Florence Legros et Henri Sterlignac, parce que beaucoup a déjà été fait en matière de réforme ces dernières années et que l'essentiel, en tout cas, pour les prochaines années, est déjà réalisé, Florence Legros ?
À mon sens, pas du tout. C'est-à-dire que vous mentionniez que les comptes étaient en vert. À mon sens, ils le sont de manière extrêmement transitoire. Et les prévisions qui sont faites à des horizons plus lointains, donc on est aujourd'hui à des prévisions, à des horizons comme 2050-2060, on peut revenir sur la solidité de ces prévisions si vous le souhaitez, en fait montrent qu'elles sont extrêmement sensibles aux hypothèses macroéconomiques qui ont été faites, et notamment aux hypothèses concernant le taux de chômage, qui en prévision est extrêmement positif, enfin favorable, et que si on s'écarte de ces prévisions de taux de chômage, et on en est très très loin, en fait le régime de retraite va retomber dans le rouge, et va retomber durablement dans le rouge, ne serait-ce que donc à cause de quelque chose qu'on connaît, c'est l'allongement de la durée, de l'espérance de vie des Français, l'arrivée qui est déjà très consommée mais qui va s'installer durablement des enfants du baby-boom à l'âge de la retraite, donc ce qu'on appelle généralement le vieillissement de la population.
Allongement de l'espérance de vie qui d'ailleurs avait plutôt diminué, enfin qui avait légèrement diminué en 2015 et qui a réaugmenté, donc on était plutôt dans quelque chose, semble-t-il, d'assez conjoncturel d'après ce que l'on peut suivre sur les courbes d'évolution de l'INSEE.
On a une tendance forte, hein, même si on a eu quelques anicroches dont certaines sont bien connues, par exemple lors de la canicule, mais en fait, généralement, l'espérance de vie repart à la hausse et ça, pour le coup, c'est une très bonne nouvelle.
Donc vous nous dites une embellie, mais une embellie très provisoire avec des perspectives à moyen et long terme qui justifieraient peut-être en tout cas qu'on se penche davantage sur la question du financement des retraites. Henri Sterlignac, pour vous ?
Je dirais complètement l'inverse. La situation est effectivement tout à fait sous contrôle. D'abord, cette année, on a un excédent qui est sensible, surtout si on tient compte du fait qu'on est quand même en situation de récession et que ça coûte quand même pas mal d'argent au système de retraite. Malgré ça, donc, on est pratiquement à l'équilibre si on prend la totalité des systèmes de retraite. Le report Enfin, il y a des mesures qui ont été prises pour inciter, obliger les seniors à rester en activité. Et effectivement, le taux d'activité des 55-65 ans a augmenté assez nettement depuis 2008, malgré la crise. Et donc, on est quand même dans une situation où la France, petit à petit, regagne un taux d'emploi satisfaisant pour les 55-64 ans. Et on a encore de la marge par rapport aux pays les plus performants. Et par ailleurs, les prévisions disent que effectivement, les déficits prévisibles à l'horizon, disons 2035, parce que c'est là où on a le plus de visibilité. Et il faut passer la bosse de 2035. C'est l'année, à partir de 2035, la dégradation du ratio démographique va se terminer. Donc il faut aller jusqu'en 2035. En 2035, il y aura sans doute un petit déficit, mais il ne sera pas énorme. Et donc, si on accepte l'idée que on va augmenter un petit peu les cotisations, on peut facilement passer. On n'a pas besoin de grandes réformes. On peut vivre tel qu'on est. Et c'est pour ça que, grosso modo, le sujet n'est pas un sujet d'actualité brûlante aujourd'hui.
Est-ce que vous diriez du coup, Henri Sterdyniak, que cette situation plutôt favorable sur le plan financier est la conséquence directe des réformes qui ont été menées ces dernières années et donc qu'elles ont été utiles et efficaces?
Vous savez qu'il y a deux types de réformes. D'une part, il y a la grande réforme qui a consisté à désindexer les pensions qui avant étaient indexées sur les salaires, aussi bien pour le calcul des pensions que pour les pensions après liquidation. Et avant, elles étaient indexées sur les salaires. Maintenant, elles sont plus indexées que sur les prix. Et normalement, ça devait provoquer une forte baisse de l'ordre de 25% du niveau relatif des retraites. Donc cette réforme a eu lieu. En même temps, on a eu une montée en puissance du niveau des retraites liées au fait qu'un certain nombre de réformes d'avant 1983 sont arrivées progressivement à jouer à plein. On a eu l'effet que les femmes ont de plus en plus droit à une retraite à taux plein. Et donc, malgré cette réforme, les suites des réformes Balladur, on a toujours un niveau de vie des retraités qui est équivalent à celui des actifs. Donc jusqu'à présent, la situation relative des retraités, globalement, est satisfaisante. On est un des pays où les retraités sont dans la situation la meilleure. Le niveau de vie des retraités, c'est le même que celui des actifs. Ça risque de se dégrader maintenant, mais jusqu'à présent, ça tient. Et puis par ailleurs, comme je l'ai dit, Le report de l'âge de la retraite, l'augmentation de la durée de cotisation ne se traduit pas par une forte poussée du chômage ou de la précarité chez les seniors. Et donc jusqu'à présent, ça se passe bien.
Voilà, je rappelle que l'âge légal aujourd'hui de départ à la retraite, alors avec toujours des nuances, avec des situations qui peuvent être un peu particulières, mais c'est 62 ans. L'efficacité des réformes engagées ces dernières années, Florence Legros, alors si j'en juge par votre première intervention, ça n'était pas suffisant, mais est-ce que c'était déjà quelque chose qui allait dans la bonne direction pour vous?
Alors, à mon sens, il y a des choses qui vont dans la bonne direction. Mais soit ça ne va pas assez loin, soit ça a des effets pervers. Donc on a parlé à l'instant de la désindexation, donc c'est un tout petit peu technique, mais ce qu'il faut quand même voir, c'est qu'à chaque fois on est dans une situation paradoxale, où certes, le niveau de vie aujourd'hui des retraités est comparable à celui des actifs. Pourquoi ? Parce qu'on est sur des générations qui ont connu des années plutôt roses sur le marché du travail, qui ont connu la montée en charge des régimes complémentaires. Mais demain, ça sera plus la même chose, et notamment à cause de cette histoire de désindexation. Aujourd'hui, les retraites, les pensions de retraite sont indexées sur les prix et non pas sur les salaires. Et donc, ce qui signifie que chaque année qui s'écoule et qui voit un peu de croissance économique voit se décrocher le pouvoir d'achat relatif des retraités par rapport aux actifs.
Parce que les salaires augmentent plus vite que l'inflation.
parce que les salaires augmentent plus vite que l'inflation. Et donc, on est dans cette situation paradoxale où la croissance enrichit les actifs, hein, c'est globalement intuitif, hein, mais paupérise les retraités. Donc, moi, je fais partie des gens qui pensent qu'à long terme, il faudra revenir sur ces modalités d'indexation qui ne sont pas favorables. J'ajouterais, et là, on va être dans le cœur du sujet sur l'âge de la retraite, c'est qu'avec de telles modalités d'indexation, si l'âge de la retraite est précoce, ça veut dire que la durée de vie après la retraite est extrêmement longue et que la désindexation au bout de 30 ans, en fait, cogne fort et donc paupérise d'autant plus les retraités.
Alors donc, justement, sur cette question de l'âge de la retraite, aujourd'hui, donc âge légal 62 ans, certains candidats proposent de ramener, de revenir à 60 ans avec 40 années de cotisation. D'autres sont plutôt favorables à un départ différé en retraite qui pourrait être de 65 ans. Est-ce que d'abord, c'est un levier, l'âge de départ, l'âge légal de départ à la retraite qui vous semble intéressant, et vers quel âge irait votre préférence, Florence Legros?
Alors, juste sur le fait que l'âge légal de la retraite soit 62 ans, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même une grande opacité dans cette histoire d'âge de la retraite. Certes, vous pouvez partir à 62 ans, mais à condition d'avoir vos 42 ans de cotisation. Je passe sous silence temporairement les gens qui sont bénéficiaires, entre guillemets, de carrières longues et qui peuvent partir de façon anticipée.
Et qui seront de moins en moins nombreux, de toute manière.
Et qui seront de moins en moins nombreux, effectivement. Mais enfin, pour l'instant, il y en a. Et de la même manière, alors, il est, vous savez que donc l'âge légal est 62 ans conditionnellement à une durée d'activité, et l'âge automatique du taux plein est donc de 67 ans. Hein, donc, mais ceci étant,
ce qui veut dire qu'à 67 ans, de toute manière, même si on n'a pas ces 40 années de cotisation, on a droit à une retraite à taux plein.
C'est ça, oui, à taux plein, mais pas une retraite pleine.
Voilà, ce qui est un petit peu différent. Alors exactement. En tout cas, juste sur l'âge du coup, brièvement, avant de redonner la parole à Henri Sterdignac, 60 ans, 62 ans, 65 ans, ou c'est pas en ces termes-là qu'il faut poser la question?
Moi, je poserai pas la question dans ces termes-là, je poserai la question en termes de durée d'activité. Et donc, ce qui voudrait dire que, par exemple, quelqu'un qui aurait commencé tôt pourrait partir également tôt, mais que cette personne, si elle souhaite continuer son activité, par exemple, pourrait bénéficier de la surcote, ce qui est injustement pas le cas aujourd'hui de gens qui partiraient à 60 ans parce qu'ils ont commencé tôt et qui ne pourraient pas surcoter s'ils choisissent de continuer un petit peu. C'est un exemple.
Henri Sterdignac, est-ce que ça n'est pas justement la bonne façon de poser le problème plutôt que de parler d'âge légal, mais plutôt de durée de cotisation? Est-ce qu'avec l'âge légal, on n'est pas avant tout dans le symbole politique, mais dans les faits, c'est bien la durée de cotisation qui détermine le montant de nos pensions?
Le charme de notre système, c'est que on joue sur les deux. Donc, au départ, effectivement, l'idée était de faire jouer un rôle central à durée de cotisation, ce qui permet à quelqu'un qui a commencé à 18 ans, si on lui impose 42 années de cotisation, il peut partir à 60 ans. Et quelqu'un qui commence à 23 ans, normalement, il part à 65 ans. Et donc, on a un système qui, en principe, était juste, parce qu'on disait, c'est les ouvriers qui commencent à 18 ans, et c'est les cadres qui commencent à 23 ans. Donc, on a mis sur pied un système qui, en principe, était satisfaisant. Ensuite, ça a été un peu détruit par la réforme qui a fait passer l'âge ouvrant le droit à la retraite à 62 ans, ce qui déjà n'est pas forcément génial. Et puis, c'est détruit aussi par le fait qu'il y a beaucoup de jeunes maintenant qui commencent à 23 ans, non pas parce qu'ils ont fait des longues études qui font qu'ils deviennent cadres, mais par le fait que, en fait, ils ne trouvent pas d'emploi. Et donc, le système, il faut un peu le repenser. Il faut penser surtout le début d'activité. Il y a beaucoup de jeunes qui trouvent pas d'emploi. Il faudrait créer pour eux une allocation d'insertion ou une forme de RSA qui leur donne des droits à la retraite si effectivement ils sont en situation de chercher un emploi sans avoir jamais travaillé.
Est-ce qu'il faut le repenser en gardant comme vecteur essentiel l'âge légal du départ à la retraite?
Il faut le système, il doit naturellement avoir un âge minimum qui est actuellement et de 62 ans. Et puis, bon, il y a une contrainte qui est la durée de cotisation qui actuellement est de 42 ans. Et le problème, c'est que on va avoir de plus en plus de jeunes qui vont commencer à accumuler des trimestres à 23 ans. Et 23 ans plus 42, ça fait 65 ans. Donc, ils auront droit à une retraite à taux plein à 65 ans. Donc, le système, il va converger, si on peut dire, vers un système où, en fait, la plupart des gens n'auront pas droit à une retraite à taux plein avant 65 ans. Voilà, donc d'un côté, on peut dire la réforme est faite puisque les jeunes, bon, grosso modo, ils seront contraints de travailler relativement tard. Et d'autre part, il faut rappeler que notre système est un système social, c'est-à-dire que on peut le changer au cours du temps. Et il faut dire clairement, si le système apparaît trop pénalisant pour les jeunes générations, il faudra le modifier un peu. Effectivement, il y a le problème. On ne sait pas quelle sera la situation de l'emploi en 2040-2050. Est-ce qu'on aura besoin de faire travailler les gens jusqu'à 67 ans? Ou après tout, est-ce qu'on pourra dire aux gens, à 62 ans, vous pourrez partir à la retraite? Le système, il est pilotable, quoi.
Vous avez dit, Henri Sterdinien, qu'il faut un âge minimum de départ à la retraite. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Florence Legros? Et pour quelles raisons faudrait-il un âge minimum? Après tout, moi j'ai envie de partir à la retraite à 55 ans, alors en ayant une pension qui serait forcément beaucoup plus faible qu'en partant au moment de l'âge qui est aujourd'hui celui de 62 ans, ou après, finalement, ça, c'est une décision qui m'appartient et j'ai le droit de vivre une toute petite retraite.
Alors, c'est vrai que c'est la raison pour laquelle moi, je suis favorable à une souplesse dans la décision de départ à la retraite. Effectivement, on pourrait choisir de partir à 67 ans, quand bien même on aurait l'ensemble de ses annuités à 62 ans.
Moi, je pensais plutôt là, dans ma question, oui, c'était avant 62 ans.
Et donc, alors le problème qui a été soulevé tout à l'heure, c'est celui de la désindexation des pensions. C'est-à-dire que si vous décrochez tous les ans du pouvoir d'achat relatif des actifs, en fait, vous avez au bout d'un moment des retraités qui vont buter contre les minima sociaux, tout simplement, qui augmentent plus vite que les prix, et puis des retraités qui vont se retrouver paupérisés par rapport aux actifs.
Et si je le fais en connaissance de cause ?
Sauf que tout ça est encore une fois relativement opaque. On parle de choses qui sont quand même assez techniques. Et du coup, en fait, les informations dont disposent les gens quand ils partent à la retraite, voire avant, puisque maintenant on a un système d'information qui donne les droits à la retraite selon l'âge, donne les droits à la retraite à la liquidation, mais ne les donne évidemment pas en pouvoir d'achat relatif au bout de 30 ans de retraite.
Henri Sterdinien. Nous sommes dans un système qui est tutélaire.
Voilà.
C'est-à-dire que l'État, il considère que les gens, ils savent pas. Sont pas capables de prévoir l'avenir. Et d'ailleurs, peut-être que tout le monde est content d'être dans un système tutélaire. Donc, si vous partez à la retraite à 55 ans, que toute petite retraite, il est fort possible qu'à 70 ans, vous n'ayez plus le minimum vieillesse et qu'on soit obligé de vous payer le minimum vieillesse. Donc, on veut éviter ça. Et c'est donc pour ça qu'on ne va pas vous laisser partir à 55 ans avec une retraite minable. On est obligé de dire, attention, il faut que monsieur Gardette, il ait jusqu'à 90 ans, il soit au-dessus du minimum vieillesse. Et donc, on ne peut pas lui laisser faire n'importe quoi.
Oui, mais
c'est pour ça qu'il y a un système de retraite. Parce que sinon, à la limite, on pourrait dire, il n'y a qu'à laisser les gens se débrouiller. Ils épargnent, ils vont sur les marchés financiers, ils jouent leur retraite sur Internet. Non, le système, le principe du système social, l'État-providence que nous connaissons, c'est de dire, la retraite, c'est un un phénomène social et on essaye de garantir que les gens ne tombent pas dans la misère.
Oui, mais même si, alors, si le taux d'activité des seniors, donc les 50-64 ans, est en augmentation, c'est quand même un taux d'activité qui est relativement faible par rapport au reste de la population active. Est-ce qu'il n'y aurait pas une logique, plutôt que d'avoir des gens qui se retrouvent sans emploi en pré-retraite, de prendre acte peut-être de cette raréfaction du travail quand on arrive à un certain âge et de pousser la logique jusqu'au bout en abaissant à nouveau, de manière peut-être un peu plus forte, la possibilité de partir en retraite, Florence Legros?
C'est pas exactement la logique. La logique, c'est ce qui a été dit tout à l'heure par Henri, c'est-à-dire que en fait, c'est d'augmenter les taux d'activité aux âges élevés. Ce qui est effectivement, il est plus bas qu'aux âges médians. En France, en gros, pour aller vite, on travaille beaucoup aux âges médians, on travaille pas quand on est jeune et on travaille pas quand on est plus âgé. Et donc, ce qui est, quand on, en comparaison internationale, ce qui est tout à fait impressionnant, puisque donc ça a aussi été dit tout à l'heure, si on regarde les pays du nord de l'Europe, on est sur des taux d'activité qui sont proches de 80%, je pense en particulier à la Suède, on est en dessous de 50% en France, au-dessus de 55 ans.
Donc c'est davantage des questions de politique économique, finalement, que de réflexion sur le système de retraite. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de l'activité.
Il y a un choix. Il faut d'abord voir que nous avons une première crise après, dans les années 60, dans les années 80, 95, où effectivement la réponse qui a été faite dans un grand nombre de pays, ça a été de développer la pré-retraite. Et de dire, ben voilà, il n'y a pas d'emploi, donc on va développer massivement les pré-retraites. Hein. Ça a été fait en France, mais ça a été fait partout, dans les pays scandinaves, ça a été fait en Grande-Bretagne. Hein. On a dit, ben, on met les gens à la retraite, et ça va donner de l'emploi aux jeunes. Ça a été fait. Et puis, d'abord, c'est coûteux, il faut dire, parce qu'il faut quand même payer des pré-retraités. Et les pré-retraités, ça coûte plus cher que les jeunes au chômage. Et puis donc, là, depuis la dernière crise, et depuis la stratégie européenne, c'est l'inverse. C'est-à-dire, on dit, malgré la crise, on continue de la politique disant il faut laisser les seniors à l'emploi, au travail. Et le résultat qu'on a dans tous les pays, qui est très frappant, c'est que dans cette crise, là, depuis 2008, les taux d'emploi des seniors continuent à augmenter et les taux d'emploi des jeunes, eux, ont tendance à s'affaisser. Et la quasi-totalité des pays, les jeunes sont en difficulté et les vieux restent plus facilement dans les entreprises. C'est un choix qui est basé sur l'idée que, grosso modo, on va plus dépenser. Les retraites, c'est coûteux. Et de l'autre côté, on espère quand même qu'un jour on va retrouver le plein emploi et qu'on aura besoin de tout le monde.
Alors, je vais faire preuve d'un petit peu de mauvais esprit, mais puisque vous nous dites que les retraités, ça coûte plus cher que les pré-retraités, ça coûte plus cher que les jeunes au chômage. Bah là aussi, poussons la logique alors dans l'autre sens. Et pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'il y ait un âge maximum au-delà duquel on est obligé de prendre sa retraite? Est-ce que les personnes qui voudraient travailler, par exemple, aujourd'hui dans le privé, je crois que la limite absolue, c'est 70 ans, avec quelques dérogations possibles, est-ce qu'on ne pourrait pas, là aussi, supprimer, alors si ce n'est l'âge plancher, mais l'âge plafond, et laisser aux personnes qui le souhaitent travailler jusqu'à ce qu'elles souhaitent s'arrêter? Florence Legros et Henri Sterdignac.
Le point est que si on pousse le bouchon très loin, on est quand même sur un quelque chose qui me semble assez dangereux. L'idée de dire, les vieux qui prennent le boulot des jeunes, c'est quelque chose qui, me semble-t-il, n'existe qu'en France, et qui est parfaitement faux. C'est-à-dire qu'on a noté, et donc c'est en continuité, me semble-t-il, mais je peux me tromper avec ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que effectivement, les pré-retraites n'ont pas diminué le chômage chômage des jeunes, puisqu'au contraire, il a fallu les financer et accroître les cotisations sociales. Donc, ce qui nous amène d'ailleurs à parler du montant des cotisations. Et donc, non seulement c'est dangereux, parce que poussons le bouchon encore plus loin, renvoyons donc les femmes à la maison pour diminuer le taux de chômage. Et donc, et en fait, on est bien dans cette logique-là, qui est de dire... En fait, en diminuant le volume total de travailleurs, on va favoriser les jeunes. Mais c'est pas du tout comme ça que ça marche.
Donc vous êtes en train de me répondre que oui, pourquoi pas supprimer l'âge plafond de départ à la retraite.
Non, le problème.
Non, je vous donne juste après la parole.
Ce que je dis simplement.
C'est comme ça que je vous comprends.
Ce que je dis simplement, c'est que il faut pas non plus, donc dans ce cas-là, avoir un âge couperet qui serait 62 ans en diminuant au fur et à mesure, en se mettant dans l'idée que ça va arranger la situation des jeunes. Et donc, ce que je veux dire simplement, c'est qu'il y a effectivement un âge limite. Encore une fois, on peut en discuter, il peut être plus élevé, moins élevé. Il est effectivement fait pour se rappeler quand même que la retraite, c'est aussi pour faire de l'intergénérationnel et pour organiser le marché du travail de façon à ce que, en gros, ça ne soit pas toujours les mêmes qui travaillent. Mais il ne faut pas pousser la logique jusqu'à dire plus il sera bas, moins les jeunes souffriront. Voilà.
Henri Sardignac.
Je vais dire deux choses contradictoires. D'abord, la crise montre bien quand même que lorsqu'on maintient les seniors dans l'emploi, et ben quand même les jeunes y souffrent. Et c'est quand même un point qu'on voit depuis 2008. Je veux dire les entreprises qui gardent des seniors, et ben dans une situation où elles n'ont pas besoin de beaucoup plus d'emplois, et ben elles n'embauchent pas. Et deuxièmement, la retraite, il faut pas oublier que c'est pas un choix simplement individuel, c'est un phénomène social. C'est-à-dire que c'est l'entreprise, c'est un dialogue, si vous voulez, entre l'entreprise et le travailleur. Le travailleur, il peut dire, ben moi je veux rester jusqu'à 70 ans. Le problème, c'est que l'entreprise, elle n'a pas forcément envie de le conserver jusqu'à 70 ans. Parce que peut-être qu'à partir d'un certain âge, le type, il est plus... Il est plus efficace, il occupe une position hiérarchique qui ne correspond plus à ses capacités. On a du mal à faire de la décroissance de salaire, de la dépromotion. Et donc, il faut bien un mécanisme pour dire l'entreprise, elle a la possibilité de faire partir le travailleur dans des conditions honorables. Et c'est pour ça que dans un grand nombre d'entreprises, la pratique, c'est quand même de dire il y a un âge normal de départ à la retraite. Quand vous avez, par exemple, 65 ans, qui dépend naturellement de votre poste hiérarchique, quand vous avez 65 ans, on considère normal que vous partiez. Et naturellement, dans des cas particuliers, vous pouvez demander à rester, mais à ce moment-là, il est normal que vous ayez une dépromotion sans que ça soit effectivement ressenti comme une brimade. Et il faut réussir... de même qu'il faut réussir les embauches, il faut réussir que ça se passe en douceur. Et donc, il faut un mécanisme social. On ne peut pas dire n'importe qui peut faire n'importe quoi. Et sans doute, on est allé actuellement trop loin en France où on permet aux gens de rester jusqu'à 70 ans, ce qui souvent pose un certain nombre de problèmes dans les entreprises quand effectivement les gens veulent rester alors que l'entreprise se dit quand même, il n'a plus une productivité qui correspond à son salaire. Donc, la retraite, c'est également, il faut bien voir que la retraite, ce n'est pas seulement un choix individuel, c'est avant tout, ça fait partie du contrat salarial.
Et ça suppose donc qu'on garde ces deux bornes que sont l'âge minimum de départ à la retraite et l'âge maximum de départ à la retraite. Entre les deux, qu'est-ce qui peut se passer dans ce que certains appellent une plage légale ? Eh bien, puisque vous avez évoqué il y a un instant le cas des pays nordiques, des pays scandinaves, je voudrais vous faire écouter l'extrait d'un reportage diffusé il y a quelques jours de cela au journal télévisé de France 2. Nous allons, évidemment, à chaque fois qu'on parle d'un modèle dans le Nord, c'est de la Suède. soit la Suède, soit le Danemark. Là, c'est la Suède dont il est question, pays référent sur les questions sociales, où a été instauré un même système de retraite pour tous, système universel avec un compte personnalisé.
Chaque individu a un compte retraite personnalisé. La retraite est calculée sur l'ensemble de la vie professionnelle et pas seulement les meilleures années, comme en France. Exemple, Christina Enquist, 50 ans. Ouvrière qualifiée dans cette PME, 2600 euros par mois. Avant, elle a eu d'autres métiers, moins bien payés.
J'ai gardé des enfants, après j'ai travaillé dans une autre usine et puis j'ai été chauffeur de taxi.
Tout est pris en compte dans son compte retraite. Salaire, mais aussi congé maladie, indemnité chômage. Les périodes où elle a moins bien gagné sa vie auront un impact sur sa future pension.
C'était mieux avant, quand c'était calculé sur les 15 meilleures années. Maintenant, j'ai intérêt à avoir un travail bien payé jusqu'à la fin de ma carrière pour compenser et avoir une bonne retraite.
L'âge légal de départ en retraite, c'est 61 ans en Suède contre 62 ans en France. Mais une retraite dès 61 ans est synonyme de petite pension. Si Christina part à 61 ans, elle ne touchera que 50% de son salaire, mais 65% si elle travaille jusqu'à 65 ans, et 70% en partant à 67 ans.
Voilà, extrait d'un reportage dont vous pouvez voir l'intégralité en allant sur notre site franceculture.fr à la page du Grand Mood. Qu'est-ce que vous pensez l'un et l'autre de ce modèle suédois? Est-ce que la France aurait intérêt à s'inspirer de cette flexibilité, on va dire, dans la capacité à partir en retraite? Peut-être d'abord Florence Segros, comme c'était vous, la Rosterdignac, qui vous étiez exprimé le dernier juste avant le reportage. Florence Segros.
Alors je dirais, alors ce qu'il faut quand même savoir sur le régime suédois, c'est que en fait, il y a quand même un pourcentage très important des Suédois qui échappent à ce régime par points. Précisément parce que il faut tenir compte des gens qui ne peuvent objectivement pas travailler et qui ne peuvent pas travailler pendant toute leur vie. Donc ça, c'est le premier point. Sauf erreur de ma part, on doit être à 42% des gens qui sont dans ce qu'on va appeler un zéro pilier, qui est un pilier qui est un pilier d'assistance. Donc ce qui est un pourcentage considérable. Et s'il est prévu en France de passer sur un régime semblable, va se poser le problème de ce zéro pilier, effectivement, puisqu'il y a des gens qui auront eu des carrières très incomplètes, parce qu'objectivement, ils ne pouvaient pas avoir des carrières complètes.
Est-ce que ça vaut quand même le coup de se poser la question et d'essayer de mettre en place une forme de retraite par points?
Moi, ce qui me semble important, c'est effectivement de se poser la question, puisque le régime actuel en France est un régime qui est extrêmement favorable aux gens qui sont des monopensionnés, qui ont passé toute leur vie dans la même entreprise de façon régulière, enfin, ou en tout cas dans le même secteur. Il y a des combinaisons qui sont déplorables. Par exemple, commencer sa vie dans le secteur privé et la finir dans le public, c'est une catastrophe. Et donc, ça permet effectivement d'avoir un régime unique qui permet d'avoir un continuum de carrière et d'avoir une retraite décente pour ces polypensionnés, qui sont très nombreux en France, contrairement à ce qu'on entend souvent. Et puis, c'est le principe d'asseoir la retraite sur les 25 meilleures années pour des gens qui vont avoir des carrières incomplètes, hachées, précisément en fin d'activité à l'âge où ils sont seniors. C'est aussi quelque chose qui leur est très néfaste.
Henri Sterdignac.
D'abord, il faut dire que le modèle en matière de retraite, c'est la France et pas la Suède. Parce qu'en France, les retraités ont le même niveau de vie que l'ensemble de la population. Et en Suède, les retraités, ils ont un niveau de vie inférieur de 25% à celui de la population. Les retraités suédois sont dans une situation beaucoup moins favorable que les retraités français. Et le système des comptes notionnels... Donc d'abord, il faut bien voir que toute grande réforme du système des retraites en France, compte tenu de la situation... politique, sociale, etc., il aura avant tout pour but de baisser le niveau des retraites.
Compte notionnel et retraite par points, c'est la même chose?
C'est pas la même chose, mais je veux dire, l'objectif reste le même. L'objectif, c'est de baisser le niveau de façon importante, le niveau des retraites. Et le problème, c'est est-ce qu'on veut effectivement Est-ce que l'objectif, c'est de baisser de 20% le niveau des retraites, ou est-ce que l'objectif, certains le disent, hein, ou est-ce que l'objectif, c'est de maintenir la parité de niveau de vie entre les retraités et les actifs? Et le système des comptes notionnels suédois, comme on l'a pu entendre, c'est un système dans lequel le montant de votre retraite dépend de façon extrêmement importante de l'âge de départ à la retraite. À 60 ans, si vous partez à 60 ans, vous vivez dans la misère. À 70 ans, ben c'est bon. Le problème, c'est que la capacité des gens à rester en emploi, c'est pas la même selon que vous soyez ouvrier ou cadre. Et donc, c'est un système qui favorise fortement les cadres au détriment des ouvriers. Dans le système français, on a beaucoup de mécanismes, au contraire, qui sont redistributifs. Par exemple, on a le minimum contributif qui fait que les gens qui ont eu toute leur carrière au SMIC, ils ont un niveau de retraite qui est 85% du SMIC, donc qui est plus élevé que ce qu'ils ont droit naturellement avec le système suédois. Enfin, donc ça disparaîtrait. Et donc le système suédois ou le système italien tel qu'ils ont été mis en œuvre, c'est des systèmes qui paupérisent de façon extrêmement risquée les retraités, et donc il y a un risque important que la grande réforme elle se fasse avec une baisse importante du niveau des retraites, et c'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant. Et quand un candidat dit avec mon système 1 euro ça rapportera le même niveau de retraite, hein, il faut rappeler quand même que actuellement 1 euro cotisé ça rapporte plus pour les bas salaires que pour les hauts salaires, et 1 euro cotisé, ça rapporte plus actuellement pour les femmes que pour les hommes.
Ça veut dire donc la retraite par points, c'est pas non plus pour vous l'option envisageable.
Je veux dire, c'est pas forcément un mieux par rapport à notre système. Il est pas génial, hein, je veux dire. On a beaucoup de régimes, on a toute une histoire, etc. C'est pas génial. Mais la grande réforme simplificatrice, de mon point de vue, elle est extrêmement dangereuse. Hein. Surtout qu'il y a une longue période de transition, c'est ce qu'on a vu en Italie, et que du coup, les gens ne se rendent pas compte de l'endroit où on va. Et donc, c'est quand même un risque important.
Florence Segron.
Oui, alors moi je suis pas tout à fait d'accord pour dire que le régime français est un régime idéal. On a des retraites moyennes, des pensions moyennes en France, hein, avec des écarts monumentaux entre secteurs. Alors ça, pour le coup, on en entend parler dans la campagne, entre les secteurs d'activité, entre hommes et femmes. Aujourd'hui, la pension moyenne, elle est aux alentours de 1300 euros par mois. 1500 pour les hommes et 900 pour les femmes, en gros, pour aller vite. Donc on a encore des disparités qui sont relativement importantes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a aussi un régime de retraite qui est très sensible aux arrêts d'activité, et notamment en fin de vie active. Et donc, on a tout fait pour paupériser un certain nombre de retraités. Alors, ça se fait de façon beaucoup plus insidieuse qu'en Suède. Vous remarquerez que cette dame sait exactement combien elle va avoir conditionnellement à son âge de départ à la retraite.
Ça, c'est au moins un avantage, c'est que c'est peut-être plus clair.
Ah bah c'est bien plus transparent.
Même si on touche moins, mais en tout cas, on sait qu'on...
Voilà. Encore une fois, on a un impact extrêmement pervers de cette désindexation des pensions. Alors effectivement, aujourd'hui, on est peut-être à 70% du salaire moyen, en moyenne, quand on part à la retraite. Mais on va finir à 40% sur les générations à venir. Pourquoi ? Parce que la croissance fait décrocher de plus en plus à chaque fois le taux de remplacement à la liquidation. Et parce qu'effectivement, les rentes exprimées en pouvoir d'achat baissent tout au long
de la
retraite.
Mais Florence, il ne faut pas oublier deux choses. C'est que d'une part, au moment de la crise en Suède, pour équilibrer le système, on n'a pas hésité à faire baisser fortement le niveau des retraites, alors qu'en France, le niveau des retraites n'a pas été affecté par la crise. Et deuxièmement, heureusement, dans les années à venir, on ne va pas connaître une croissance fabuleuse. Dire l'idée que dans les années à venir, on va continuer à connaître une croissance fabuleuse de la productivité du travail, elle a du plomb dans l'aile. Et si effectivement, dans les années à venir, la productivité du travail augmente très peu, et ben le niveau niveau relatif des retraites sera quand même garanti.
Oui, alors ça nous amène à nos hypothèses macroéconomiques de départ. C'est que si on a une productivité qui est faible dans les années à venir, on va effectivement avoir aussi une croissance économique faible, d'accord, et donc un taux de chômage relativement élevé. Et donc ça signifie qu'on ne sera pas dans les hypothèses qui prévalent aux prévisions qui sont faites par les différents organismes à l'horizon 2035-2040 et qu'on va se retrouver dans le rouge avec l'obligation soit d'augmenter les taux de cotisation, soit d'appauvrir encore plus les retraités.
Voilà, ben la boucle est bouclée effectivement avec ce que vous disiez tout à l'heure au début de cette émission. Moi j'évoquais, on va dire, l'ancienneté des sujets qu'on traite cette semaine, des sujets de société, ce qu'on peut d'ailleurs vérifier à travers l'examen du patrimoine de la chanson française, patrimoine parfois méconnu. On en a eu un exemple lundi avec le service militaire chanté par Joe Dassin. La retraite, elle a été chantée en 1984 par un certain Gilbert Bécaud.
Oh là là, c'est long, la retraite. Oh là là, c'est long. Ça te rend gaga, la retraite. La retraite, c'est con. Ça te rend grognon, la retraite. Ça te rend bougon.
Voilà, chanson méconnue, je pense, du répertoire de Gilbert Bécaud. Et il y avait peut-être des raisons à cela. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir participé à ce débat, Roy Sterdyniak et Florence Legros. Débat que vous pouvez réécouter aussi longtemps que vous le souhaitez sur notre site franceculture.fr à la page du Grain à Moudre.
Aux champignons, cria le patron.
Ouais, merci à toute l'équipe du Grain, les autres Sicards, Mélanie Chalandon, Fanny Richet, Philippine Lebray, Louise Fuseau, mission réalisée par Romain Masson avec la prise de son, Pierrick Monsigny. Demain, faut-il légaliser l'usage du cannabis? Dans un instant, parle de cannabis, je pense que c'est un sujet auquel devrait être sensible au moins un de vos invités, Mathilde Serrel, dans Ping Pong. Je veux pas trahir de secret en disant ça.
Non, bien sûr, Hervé Gardette, mais peut-être on peut parler de la liane de l'âme, l'ayahuasca, qui peut vous emmener comme ça à découvrir des choses accompagnées d'un chaman pour entrer un petit peu dans ce moi que vous ne connaissez pas et qui pourtant peut vous ouvrir tous les possibles. On en parle avec nos invités de cela et d'autres choses. Il s'agit d'Alejandro Jodorowsky, Pascal Montandon Jodorowsky et Yann Kounen.
Et ce sera après le rappel des titres.